L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur Radio Larzac pour un nouveau numéro de l'actu sur un plateau, le magazine de l'actualité locale et culturelle sur les ondes de Radio Larzac. Aujourd'hui, au programme en fin d'émission, retrouvez le reportage de Souria sur les ateliers Cuisine du Monde à l'association Myriade. Et en deuxième partie, on parlera de l'aide humanitaire internationale avec Jeanne Rouche, présidente du comité local du Secours Populaire à Millau, qui a lancé un appel aux dons suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Mais pour commencer, cap sur la culture, nous recevons Céline Gelton-Thomasset pour présenter la nouvelle exposition à Ping Pong le Toit à Millau, qui présente la bande dessinée Indignez-vous, la violente espérance de Stéphane Hessel, 10 ans après la mort de l'écrivain et intellectuel. Et c'est parti! Et bonjour à toi Céline du
bonjour.
Coup. Et bonjour Alex qui m'accompagne aujourd'hui au plateau.
Bonjour, bonjour.
Alors Céline, donc, tu es la présidente et coordinatrice d'Aporia Culture et tu es ici pour présenter la nouvelle exposition qui est déjà visible à Ping Pong le Toit depuis le 20 février et jusqu'au 31 mars. Et c'est une expo qui donne à voir de planches de la BD Indignez-vous qui est parue aux éditions Indigènes en novembre dernier de Frédéric Debomy et Lorena Canottiere. Donc, comment est venue l'idée de cette expo ?
Oui, effectivement, cette exposition, elle est venue du fait qu'à Ping Pong le Toit, du coup, à Poria Culture, en partenariat avec Ping Pong le Toit, on a défini, en fait, il y a 2 ans, des axes pour l'ensemble de la programmation culturelle. Et dans les axes, bah, il y a évidemment de mettre en avant des bandes dessinées, mais aussi un lien avec des sujets actuels et des sujets citoyens. Donc on essaye quand même de choisir justement bah, des œuvres et des regards d'artistes qui peuvent répondre à ces différents axes. Il n'y a pas que cela, hein, il y a aussi l'architecture, le design, des arts hybrides, les arts numériques, voilà, le patrimoine aussi. On essaye justement de donner à voir bah, des sujets culturels qui ne sont pas forcément très visibles à Millau, mais toujours en partenariat avec les acteurs culturels existants sur le territoire. Et du coup, ben voilà, ce début d'année, ce début de saison, on s'est dit autant travailler sur ce sujet qui nous touche. D'une part parce que Stéphane Hessel est décédé le 27 février 2013, donc ça fait pile 10 ans. Et que c'est quand même quelqu'un qui a compté sur le territoire, qui vivait à côté du plateau du Larzac, dans les Cévennes, mais qui est quand même beaucoup intervenu sur le plateau du Larzac. Et puis, cette bande dessinée fait appel aussi à raviver un petit peu ce qu'il écrivait dans son manifeste Indignez-vous, qui a été publié par un éditeur de la région aussi, qui n'est pas si loin, ils sont installés à Bouzigues. Donc voilà, ça fait partie des réseaux que moi j'avais. Et puis ça met en avant des acteurs bah, du territoire un peu large de la région. Voilà.
Oui. Et donc dans cette expo, qu'est-ce qu'on pourra y découvrir ? C'est des planches de la BD, mais peut-être aussi autre chose, d'autres éléments ?
Alors l'exposition, elle est constituée en 3 chapitres. Il y a effectivement dans chaque chapitre bah, les planches de la BD, mais du coup, il y a également quelques petits panneaux qui expliquent, qui résument un peu ces parties. Le premier chapitre, c'est plus sur la jeunesse de Stéphane Hessel, parce que mine de rien, on va recevoir aussi des classes de collège et de lycée. Je suis pas sûre que quand on est adolescent, on sache bien qui est Stéphane Hessel, donc ça me paraissait important de rappeler un petit peu bah, ce grand personnage qui est décédé à 95 ans, mais bah, qui avait vécu presque un siècle. des événements particuliers, quoi, entre la Deuxième Guerre mondiale, la Résistance, le fait qu'il ait participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un diplomate qui a fait un peu le tour du monde, qui a été ambassadeur de France dans multiples pays et qui a beaucoup... et qui a quand même beaucoup été présent dans les droits humains et qui se battait énormément pour ces questions-là. Donc voilà, au moins rappeler effectivement sa vie et sa jeunesse, qui n'a pas été facile, puisqu'il a parcouru... il a été enfermé par les Allemands dans les camps de concentration, 3 camps notamment. Donc c'est ce qui a provoqué en tout cas son indignation personnelle et puis son combat de vie. Et puis du coup, dans le deuxième chapitre, l'idée c'est justement de reparler de l'écriture d'Indignez-vous, d'où c'est venu, comment c'est venu justement dans les dernières années de sa vie, cette nécessité de transmettre le message, je pense qu'il avait juste quelques années avant de mourir. Et puis le troisième chapitre, c'est de rappeler justement ce qui... les conséquences de Indignez-vous, de ce petit livre que j'ai là, qui ne fait pas beaucoup de pages, qui n'est pas très cher, mais qui a eu un retentissement immense pendant 2 ans, et puis international surtout. Donc voilà, de se rappeler un petit peu ça, parce que finalement c'était en 2011 et 2012, donc c'était il n'y a pas si longtemps, et je trouve que... on doit avoir la mémoire courte, mais c'est vrai que tout ce qui s'est passé avec le mouvement des indignés, on l'a un peu oublié. Et voilà, c'est l'occasion de raviver ça. Sans compter sur l'actualité, parce que forcément, quand on parle de Stéphane Hessel, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Résistance, forcément, c'est un écho très présent aussi concernant les réformes de la retraite et puis toute la réforme de la sécurité sociale. Et voilà, cette exposition et ces messages redonnent un petit peu à réentendre et à se souvenir de notre histoire, de notre patrimoine d'il y a quelques années, finalement, ça fait pas si longtemps, hein, 1945. Donc.
Tout à fait. Et donc, tu viens de le dire, le livre Indignez-vous, qu'il a publié 2 ans avant sa mort en 2010, a eu une forte écho internationale parce qu'il a été traduit en 34 langues et c'est le livre le plus vendu en France des 15 dernières années. C'est à l'origine aussi du mouvement des indignés. Et justement, Alex, il y a un passage qui retentit beaucoup avec l'actualité.
Oui. Donc je vais lire, c'est pratiquement le début de l'ouvrage Indignez-vous. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. Pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard des émigrés. Pas cette société où l'on remet en cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale. Pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis. Toutes ces choses que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil national de la Résistance. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger nos conquêtes, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, sinon parce que le pouvoir de l'argent, tellement combattu par la Résistance, n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l'État.
Merci Alex. Et donc ce sont des propos d'actualité. Et d'ailleurs, il y a une table ronde le 18 mars organisée à Ping Pong Le Toit qui justement met l'accent sur l'héritage de Stéphane Hessel et donc aussi sur les aspects d'actualité de son pamphlet.
Voilà. Effectivement, le 18 mars, donc, on invite le scénariste de la bande dessinée, Frédéric de Baumy, qui est quelqu'un aussi d'important parce qu'il a beaucoup... c'est un auteur de bande dessinée qui fait beaucoup de scénarios, mais c'est aussi un essayiste. Il habite pas très loin non plus, aussi dans les Cévennes, mais il a publié de nombreux ouvrages, notamment autour de la protection des peuples birmans. Et du coup, voilà, toute cette relation au message de Stéphane Hessel l'a beaucoup touché. Et il a également interviewé le Dalai Lama et puis la prix Nobel de la paix... la présidente birmane, j'ai peur d'écorcher son nom, je suis désolée du coup. Voilà, donc du coup, c'est lui qui a proposé de scénariser cette bande dessinée à partir du petit livre Indignez-vous. Donc il viendra nous parler de tout ça. Et puis également les deux éditeurs d'Indigène Édition, Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, qui sont aussi de fortes personnalités, puisque Sylvie Crossman, en plus d'être romancière, a été pendant longtemps journaliste pour Le Monde au niveau international. Elle était à Los Angeles et puis aussi en Australie. Et puis Jean-Pierre Barou, qui est un grand philosophe, avait participé il y a très longtemps, dans ses jeunes années, à la création du journal Libération sur le Causse-Noire. Donc on a aussi un petit lien quand même toujours avec ces gens-là sur le territoire. Local. Et donc du coup voilà, ils viendront. On invite aussi les personnes de la Ligue des droits de l'homme et puis l'association Oxfam, parce que justement c'est lié à l'actualité. Ils viennent de publier un rapport qui s'appelle La loi du plus riche, qui montre qu'un petit pourcentage de personnes ont une grande partie des richesses du monde, et que du coup ça ne s'améliore pas, ce rapport. Donc nous, ça nous intéresse aussi, ça fait partie des messages qui concernent l'héritage de Stéphane Hessel, puisque comme tu le dis, il se battait déjà il y a quelques années pour ça, et en fait on voit que ça évolue pas forcément dans le bon sens, mine de rien.
Tout à fait. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans la BD aussi, c'est que ce n'est pas simplement une transcription en bande dessinée du pamphlet, mais ça donne à voir d'autres aspects et les drames, les espérances de Stéphane Hessel tout au long de sa vie.
Oui, effectivement. Ça raconte du coup l'histoire de ce pamphlet. Donc... En rappelant la jeunesse de Stéphane Hessel, comme je disais, mais aussi ça met en avant les différents messages pour lesquels il combattait et les différentes personnalités qu'il rencontrait pour cela, et de se souvenir que voilà, c'était plutôt quelqu'un d'enjoué. Alors moi je ne l'ai pas connu, mais voilà, en tout cas beaucoup de personnes m'en ont parlé, mais quelqu'un plutôt d'enjoué, de très intellectuel, de poète, qui avait vraiment une soif de transmission, de raconter, voilà, qui savait emmener en fait les gens avec lui. Donc c'est pour ça qu'il intervenait souvent auprès de... il se déplaçait beaucoup, il intervenait souvent auprès de nombreuses personnes, dans des conférences, etc. Et donc les peu de personnes qui l'ont vu s'en souviennent beaucoup.
Ouais. Voilà. Et donc ces aspects-là seront aussi au centre, j'imagine, de la visite guidée de l'exposition que vous organisez donc le 18.
Oui, voilà. Donc l'exposition, comme elle est ouverte du lundi au vendredi, plutôt en journée, à l'occasion de cette table ronde, on va l'ouvrir plutôt le samedi 18 mars. Et l'idée, c'est que comme nos interlocuteurs seront présents, ils peuvent présenter les planches et puis le déroulé effectivement de la bande dessinée au public. Mais on parlera après des sujets un peu plus importants pendant la table ronde. Voilà.
Et donc on a parlé d'indignation, d'appel à l'indignation, et on a sélectionné un autre passage avec Alex justement qui appelle à s'indigner.
Oui, donc là on avance un peu dans le texte, toujours son ouvrage « Indignez-vous ». Le motif de base de la résistance était l'indignation. Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre et transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons, prenez le relais, indignez-vous. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Je souhaite à chacun d'entre vous d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux, vous êtes responsable en tant qu'individu.
Et donc justement, un motif d'indignation, est-ce que toi t'en as un, Céline, de motif d'indignation, si tu devais en choisir un?
Eh bien, effectivement, il y en a beaucoup, quand même. Mais effectivement, ce que dit Stéphane Hessel résonne beaucoup en moi. Après, je pense que chacun essaye d'agir à sa manière, évidemment. L'injustice, évidemment, les inégalités, évidemment, le changement climatique et puis l'inaction. Je trouve que oui, ce sont énormément de motifs d'indignation, évidemment. Après, chacun agit comme il le peut. Effectivement, soit tous ensemble dans la rue, comme ça se passe depuis quelques semaines. Mais on peut aussi agir autrement, et chacun avec ses propres moyens. Peut-être qu'effectivement, moi, ma manière de m'indigner, c'est de pouvoir aussi transmettre ses messages d'une autre manière, peut-être plus discrète et plus modeste, mais au moins avec des actions qui permettent de rencontrer des bonnes personnes, de pouvoir en discuter ensemble, de pouvoir montrer justement ces messages sous la forme de regards artistiques, de dire que ce sont aussi des sujets qui intéressent toutes les classes de la population et qu'on peut tous agir et interagir ensemble pour en discuter. Voilà, ce n'est effectivement pas des sujets qui sont réservés à certaines personnes et qui sont transversales dans la société. Donc moi, ça m'intéresse de le voir comme ça. Voilà.
Et donc, on l'a dit, le texte de Stéphane Hessel a donné suite au mouvement des indignés qui a commencé en Espagne. Les indignados, à l'époque, l'Espagne avait fortement souffert la crise économique de 2008 et les mesures d'austérité aussi imposées par la Banque Centrale Européenne. Donc, les indignés, c'était vraiment un mouvement inédit pour l'époque. Et comment la BD... Et l'expo aussi, je suppose, raconte ces événements.
Et ben c'est un peu le troisième chapitre de l'exposition, c'est de montrer le retentissement que le manifeste, parce que la BD, elle est parue en novembre 2022, donc non, elle n'aura pas forcément autant de retentissement, mais que le manifeste a eu après sa sortie. Donc effectivement, le fait qu'en France, bah, ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit autant acheté. Un petit livre, voilà, en plus il n'a pas forcément la forme d'un livre, c'est un petit livret d'une trentaine de pages. Et en fait, énormément de personnes l'ont acheté et ça a explosé. Vite fait les ventes et puis du coup les réimpressions, les rééditions, etc. Ils ne s'attendaient pas non plus à ce que ça soit traduit de manière même inopinée sans que ça soit que les droits soient achetés tout de suite par d'autres éditeurs. Donc c'est-à-dire que vraiment il y a eu un mouvement citoyen et le peuple s'en est emparé pour que ça puisse vraiment traverser les frontières.
Et passer de main en main.
Ouais, vous vous en souvenez, voilà. Je suppose.
C'est ça. Chacun se passait le mot et puis tout le monde se l'achetait. Et voilà, on sent que c'est un message effectivement que les générations ont envie de se transmettre, même des plus âgés aux plus jeunes. Et puis, du coup, pendant un an et demi après, les indignés d'eux ont traversé les frontières. Parce qu'il y a eu effectivement en Espagne, après il y a eu dans les pays du Maghreb, après il y a eu effectivement à Wall Street. Voilà, tout ça fait partie, on peut continuer même avec les gilets jaunes, etc. Tout ça fait partie finalement de ce petit message... d'indignez-vous et je trouve que c'est bien. Après il y a quand même eu la discussion de est-ce que c'est mieux de s'indigner ou agir, mais comme le dit Stéphane Hessel, si tout le monde l'avait clairement bien lu, c'est que l'indignation est le moteur de l'action, donc forcément l'un ne va pas sans l'autre et il vaut mieux s'en souvenir. Et à ce propos, du coup, le 16 mars, à 20h30, on va projeter le film de Tony Gatliff, justement, qui s'appelle Indignez-vous aussi, et qui parle davantage de ce qui a commencé en Espagne. Donc, ça y est, on a eu les droits et le programme, donc tout le programme, en fait, des événements est sorti. Donc, ça sera le 16 mars au cinéma de Millau à 20h30. Voilà.
Ouais, du coup, un film qu'on a hâte de découvrir aussi. Et justement, dans ce mouvement, il y avait un aspect important, c'était la non-violence. Et parce que justement, l'appel à l'indignation, à l'action, peut faire penser à des actions vraiment de violence. Mais c'était important dans ce mouvement-là. Et donc, Alex, tu as sélectionné un autre passage qui parle de ça.
Oui, qui est la fin du texte. Donc, effectivement, il n'invitait pas à poser des bombes. Je suis convaincue que l'avenir appartient à la non-violence, à la conciliation des cultures différentes. C'est par cette voie que l'humanité devra franchir sa prochaine étape. Il faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir. Il faut lui préférer l'espérance, l'espérance de la non-violence. C'est le chemin que nous devons apprendre à suivre, aussi bien du côté des oppresseurs que des opprimés. Il faut arriver à une négociation pour faire disparaître l'oppression. C'est ce qui permettra de ne plus avoir de violence terroriste. C'est pourquoi il ne faut pas laisser s'accumuler trop de haine. À ceux et celles qui feront le 21e siècle, nous disons avec notre affection, créer, c'est résister, résister, c'est créer.
Merci Alex. Et donc pour conclure, Céline, tu as parlé de la projection le 16 mars au cinéma de Millau à 20h30 et ensuite le 18 mars, donc la visite de l'exposition et ensuite la table ronde en soirée. Est-ce qu'il y a d'autres événements prévus à Ping Pong pour cette expo ?
Oui, en fait, il y a un autre événement. Donc, le 11 mars, on commencera par une friperie solidaire. L'association Amachéa, qu'on invite déjà depuis 2 ans, donc refait une friperie cette fois de printemps. Et donc, on l'intègre voilà, dans le cadre de l'événement, parce que ça nous paraît important aussi d'avoir ce regard-là. Et donc, l'exposition sera aussi ouverte ce jour-là pendant la friperie.
Puis c'est un lien aussi avec des motifs d'indignation.
Exactement, voilà. Donc 16 mars, la projection au cinéma. Le 18 mars, effectivement, l'exposition avec la table ronde ensuite. Et le 31 mars, pour la clôture de l'exposition, on réinvite Frédéric Debomy, parce qu'il habite pas très loin. Et c'est surtout qu'on l'intègre dans le cadre d'un événement national, les 48 heures de la bande dessinée, qui a lieu le 31 mars et le 1er avril. Donc, vous pouvez pas passer à côté, là, c'est sûr. et qui va faire un atelier bande dessinée. Et puis ensuite, une dédicace. Donc, c'est en partenariat avec la librairie Comme des Livres. Et on finira pour la clôture avec un verre, mais aussi la lecture de Indignez-vous en entier par Blanche Cluzet. Voilà. Donc, et c'est un autre petit moment de rendez-vous aussi pour l'occasion.
Et l'atelier BD est ouvert aux plus petits ou à tout le monde ?
Alors, comme il est scénariste, il faut quand même savoir écrire. Donc, on l'a mis à partir de 12 ans. Voilà.
Super. Et en tout cas, toutes les informations sont sur aporiacultura.com, votre site. Je te remercie beaucoup, Céline, pour ta participation. Et je rappelle que l'exposition, donc Indignez-vous, la violente espérance de Stéphane Hessel, est visible à Ping-Pong-le-Toit jusqu'au 31 mars. Et puisqu'on a parlé de motifs d'indignation, ce soir à 18h, sur le plateau de la gare à Millau, il y a une manif au flambeau contre la réforme des retraites. Donc, de quoi s'indigner aujourd'hui. Mais pour rester dans le thème et dans l'émission, on écoute Indignados de Kenny Arcana.
Et lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
Le mouvement des indignés avait commencé à Madrid en Espagne, c'est désormais New York que son épicentre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré.
Le mouvement a gagné.
En Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers de
personnes. Alors, le même genre d'occupation au cœur de l'île.
Il pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son indigno. Que partout on se rallie, au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop, trop spontanés pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. CRS acharné, chien d'un avenir qu'on falsifie, fragilisé. À l'heure où la bonne foi est rarissime, révolte se ramifie. Sur chaque continent, c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine.
Indignados, parababababamos.
C'est une dingue qui s'est levée mondialement et sans parti.
Indignados, parababababamos.
Indigné, lève-toi.
Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quien est salaud à la cage?
La rabia, parababababamos.
Esperanza de mañana. Ciclo suicida, comme un grito de vida. Rebeldía unida, comme una suerte unica. Última batalla, como podemos olvidar. Hay sangre en lágrimas, sino desde ahorita. El humano salió, el puño levantado. Indignados, unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo, adiós, no es que un sueño. Pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá de la frontera.
Levántate, levántate.
El mismo corazón para todos los hijos de la tierra.
Levántate, levántate.
Los verdugos mataron la paz. Olvidaron la fuerza del amor. Acá los pueblos tienen la rabia.
Pueblos unidos, vamos.
La rue s'est soulevée en faire trembler la machine.
Indignados, vamos.
C'est une dingue qui s'est levée mondialement et sans parti.
Indignados, vamos.
Indigné, lève-toi.
Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers.
Quien est salaud à la cage?
La rabia, vamos.
Esperanza de mañana. Fut le printemps qui marquera l'histoire. Hacker anonyme qui fait trembler le pouvoir. La Grèce antique peut être fière de sa postérité, luttant avec courage contre leurs mesures d'austérité. Indignados s'est embrasé sur le globe. Partout a résonné l'appel de la porte del sol. sol. Comme une traînée de poudre s'est propagée la révolte. Parce qu'au-delà de nos frontières, on s'est reconnu dans l'autre. Une seule et même terre meurtrie. Et ya, l'âme collective a le cœur triste. Écoute, l'insurrection est de sortie. La rue s'est soulevée, même jusqu'au pied de Wall Street. Un même cœur au milieu de racines. Contre politique fasciste à l'heure où police assassine. Rien de facile, précipice, on a quitté la file. Y'a de l'espoir dans l'air, écartez-vous. Les indignés arrivent. La rue s'est soulevée, à en faire trembler la machine.
Indignados, paramos.
L'Italie s'est levée mondialement et sans parti.
Indignados, paramos.
Indigné, lève-toi.
Dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quien est sa loi, la cage est
la mienne.
Vos espérances, la démonie, la loi.
De retour dans l'Actu sur un plateau, l'émission d'actualité sur Radio Larzac. Et je souhaite maintenant la bienvenue à Jeanne Rouge qui m'a rejointe en studio. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Vous êtes donc la présidente du comité local du Secours Populaire à Millau, qui a lancé un appel aux dons suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. Je suppose que les auditeurs en ont entendu parler, mais pour rappeler, il a fait plus de 45 000 morts et les besoins d'aide humanitaire se chiffrent autour $1 milliard. Et donc le Secours Populaire évidemment fait sa part en lançant un appel aux dons qui a été relayé par le comité local de Millau. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous présenter justement le comité local de Millau et vos activités?
Alors, au comité local donc, de Millau, nous gérons un espace vestimentaire et un espace équipement de la maison. Ces deux espaces ont une double vocation. Tout d'abord, permettre aux personnes que nous accompagnons de pouvoir s'habiller et s'équiper à tout petit prix et être également notre source de rentrée financière puisqu'ils sont ouverts à tout public et pas seulement aux personnes que nous accompagnons. Alors, ces deux espaces ne fonctionnent qu'avec les dons que nous apportent les Millavois. Ces dons, vous le comprenez, sont donc essentiels, indispensables pour que nous puissions mener nos actions de solidarité.
Donc on peut venir donner par exemple des vieux meubles ou vêtements?
Oui, tout à fait. Nous prenons vêtements, meubles, petits électroménagers, gros électroménagers, chaussures, livres, voilà. Tout ce qui peut être de l'ordre de l'équipement de la maison et de l'habillement. C'est donc, comme je vous disais, ils sont donc essentiels et donc nous permettent tout d'abord de faire donc nos actions de solidarité, tout particulièrement l'aide alimentaire que nous distribuons toutes les semaines. Mais l'aide alimentaire n'est pas la seule aide que nous faisons. Nous aidons également financièrement pour la pratique d'une activité physique dans les clubs sportifs millavois, l'accès à des activités culturelles telles que l'accès aux séances de cinéma, en même temps que nous gérons une bibliothèque solidaire. Nous organisons aussi des actions de prévention santé, loisirs, des moments de loisirs avec notamment l'été des sorties familiales, les possibilités de séjour en colonie pour les enfants et au mois d'août, la journée des oubliés des vacances, ce qui est le temps fort de notre campagne vacances. En cela, nous faisons vivre notre devise qui est tout ce qui est humain est nôtre. Au comité actuellement, nous sommes 42 bénévoles, mais nous avons besoin de davantage de bénévoles. Aussi, je lance un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient nous aider, notamment nous aider dans l'accompagnement des familles à l'accès aux droits sociaux, dans nous aider pour la recherche de partenariats.
Donc et un travail plutôt administratif, voilà, pour des démarches administratives par exemple.
Voilà, pour des démarches administratives et aussi pour l'organisation au moment de, surtout l'été, au moment des sorties familiales qui sont une organisation qui demande beaucoup de temps, voilà, et de personnes, puis l'accompagnement des familles lors des sorties.
Tout à fait, donc on lance cet appel à bénévoles. Et donc vous avez parlé des actions qui se passent ici à Amillo, mais le Secours Populaire donc, est un mouvement national, mais aussi international, parce que vous agissez par le biais de partenaires suite à des urgences humanitaires, comme par exemple le séisme en Turquie et en Syrie. Et donc, quels sont vos partenaires et comment travaillez-vous justement à l'international ?
Alors, les actions du Secours populaire français à l'international sont mal connues hein, du grand public. Pourtant, chaque année, le SPF vient en aide à 500 000 personnes dans le cadre de ses 150 actions d'urgence et programmes de développement menés dans une soixantaine de pays. Le SPF agit toujours à l'international avec des partenaires locaux. Avec ces associations, nous sommes avec eux, comme eux, dans une démarche partenariale.
Oui, c'est en fait un peu l'équivalent, si on veut, du Secours populaire, mais sur un territoire à l'international.
Voilà, tout à fait. C'est une règle intangible. Avec les victimes des catastrophes naturelles, de la faim, de l'intolérance, des atteintes aux droits de l'homme, nous construisons main dans la main la solidarité. Le Secours populaire accompagne les populations et associations locales dans leurs projets pour mieux répondre à leurs besoins et afin qu'elles retrouvent des conditions de vie décentes. Alors, le SPF ne vise pas à exporter la solidarité, mais plutôt à tisser des réseaux de partenaires solidaires où chacun compte et développe ensemble la solidarité. Voilà, c'est l'esprit même voilà, de l'aide que le Secours populaire apporte à l'international.
Donc faire aussi des actions en commun, par exemple, ou voilà, justement un relais de solidarité.
Exactement.
Tout à fait. Et donc le SPF est aussi à l'origine du réseau euro-méditerranéen pour la solidarité. Donc vous avez déjà un peu répondu, mais quels sont par exemple des programmes ou des actions de solidarité que vous avez menées à l'international ou dans ce réseau-là ?
Alors au Salvador, par exemple, je vais prendre l'exemple du Salvador parce que la région Occitanie, les fédérations de la région Occitanie sont particulièrement investies donc, dans ce projet. Au Salvador, avec l'association coopérative de production agricole Canasta Campesina de la commune de Comasagua, nous poursuivons un projet de réactivation de la production agroécologique des femmes et des jeunes. Cette région est composée d'agriculteurs qui pratiquent essentiellement une agriculture de subsistance. Après la tempête Julia, en octobre 2022, les familles paysannes ont perdu 80% de la production et toutes les infrastructures. Alors, le Secours populaire les a accompagnés pour réactiver cette production avec l'achat de matériel, la remise en état des infrastructures, l'achat de semences et en fournissant également un soutien technique. Alors, comme je vous le disais, la région, les fédérations de la région Occitanie sont particulièrement impliquées donc, dans ce projet. D'ailleurs, ce lundi 6 février, le lundi donc, de ce mois de février 2023, avec notre conseil de région du Secours populaire, nous avons reçu les amis salvadoriens de cette coopérative qui sont venus nous présenter les réalisations et voilà toutes les réalisations qu'ils avaient pu faire avec donc notre concours, hein, en particulier, bon, comme toujours, comme je vous l'expliquais, un concours financier.
Tout à fait. Et donc le lundi 6, c'était malheureusement aussi le jour des premières secousses en Turquie et en Syrie. Et donc vous avez tout de suite réagi en lançant un appel aux dons financiers. Et donc on peut venir les déposer dans vos locaux sur la place de la gare, qui sont ouverts du lundi au vendredi de 14h à 17h. Et donc, en fait, ensuite, cet argent va justement être mobilisé par le biais de vos partenaires.
Oui, voilà. Alors, l'argent que nous collectons est envoyé à la Fédération à Rhodes, puis à l'Union nationale qui le confie aux partenaires. Ces partenaires doivent faire état très régulièrement des avancées des projets, fournir les factures et les justificatifs et même les photos de leurs actions.
Donc de comment en fait ils utilisent cet argent ?
Oui, en plus, donc les partenaires sont également invités lors de nos congrès. Hein, ils viennent présenter donc à toutes les fédérations, aux bénévoles, et aussi donc les projets, où ils en sont des projets et comment les projets avancent.
Voilà. Et donc, pour cette mobilisation en particulier suite au séisme, j'ai lu que vous travaillez avec un partenaire libanais de PNA, donc Development for People and Nature Association. Et donc, par exemple, comment cette association est investie maintenant sur les zones frappées par le séisme ?
Alors, ce partenaire libanais a déjà une expérience de l'intervention d'urgence, puisqu'il était déjà intervenu en 2020 lors de l'explosion du port de Beyrouth. Ce partenaire a identifié les besoins et ils ont constitué une équipe de 25 bénévoles qui ont déjà accompagné 5 camions avec des vêtements, des couvertures, des lampes, des produits bébés, des conserves vers la Turquie, en lien avec donc des partenaires présents en Turquie et de même en Syrie. Et ils continuent toujours donc ce travail de la même façon.
Et j'ai lu qu'un autre problème, c'est qu'il y a peu de couloirs humanitaires qui sont opérationnels en ce moment, à cause de la guerre aussi. Et donc le SPF dénonce cette situation-là aussi. Par exemple, vous faites des appels par exemple auprès des responsables politiques.
Alors, le Secours populaire, oui, mobilise tous les moyens de communication hein, qui sont mis à disposition à la fois des fédérations et des comités. Nous avons 96 fédérations à travers le territoire en France, 664 comités hein, qui relaient cet appel. Et au niveau national, l'Union nationale, alors ce sont plus de... Nous sommes actuellement à 167 retombées nationales, que ce soit sur Libération, TV France, France 2,
donc du relais dans les médias.
Voilà, dans les médias. Et l'Union nationale, donc après aussi, donc intervient auprès des responsables politiques.
Et donc, pour conclure, peut-être vous pourriez nous raconter un petit peu, vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans le Secours populaire ?
Ce qui m'a amené à m'engager dans le Secours populaire, déjà que lorsque j'étais en activité, donc je participais voilà, aux actions ponctuellement du Secours populaire, peut-être de par ma profession, qui était déjà, donc, puisque j'étais enseignante, donc voilà, qui... Et puis, le souci, voilà, d'aider les autres, hein, un sentiment aussi d'injustice hein, envers des populations, voilà, une population qui souffre hein, de précarité, voilà. Et donc après, tout naturellement, lorsque je suis devenue retraitée, puisque maintenant je suis à la retraite, j'ai continué cet engagement.
Donc on a parlé tout à l'heure de motif d'indignation, c'était aussi un peu un motif d'indignation pour vous.
Voilà, tout à fait, je rejoins un petit peu, voilà, hein, tout à l'heure vous aviez parlé de motif d'indignation, voilà, c'était aussi, voilà, l'injustice sociale est un motif, oui, pour moi, d'indignation.
Et donc pour cet appel à dons, on le répète, donc toutes les personnes intéressées ou en tout cas qui ont les moyens de donner peuvent se rendre donc dans vos locaux du lundi au vendredi de 14h à 17h pour déposer des dons financiers et puis aussi pour vous rencontrer.
Oui, nous sommes ouverts, nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi, comme vous l'avez dit, de 14h à 17h.
Voilà, et donc merci beaucoup. Jeanne Rouche, je le rappelle, vous êtes la présidente du comité local du Secours populaire à Millau. Et comme on vient de le dire, il y a un appel aux dons qui est actif et nécessaire en ce moment, et aussi un appel à bénévoles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à la rencontre du Secours Populaire.
Merci à vous de m'avoir invité et d'avoir pu me permettre voilà, de présenter le Secours Populaire et les actions voilà, de solidarité à l'international.
Bien, ben maintenant on passe un peu à autre chose parce qu'on a parlé de sujets un peu lourds à porter et donc on vous propose un moment plus léger d'humour avec les enfants du classe de l'association Myriade. Ils et elles sont venus à la radio enregistrer leurs blagues et aussi des histoires. Vous allez entendre ça tout de suite.
Attention, nous sommes là pour vous raconter des blagues. Et aujourd'hui je donne la parole à Shawal.
Bonjour, je m'appelle Shawal. Je vais vous raconter une blague. Cette blague, je l'ai trouvée sur un livre. Pourquoi les marins veulent-ils à tout prix se marier pour avoir une belle mère?
Merci Shawal. Nous allons donner la parole à Abdoula.
Bonjour, je m'appelle Abdoula Atabayev. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une blague que j'ai créée. Pourquoi le Père Noël a les joues rouges? Parce qu'il a bu trop de jus de pomme rouge.
Merci Abdoula. On va donner maintenant la parole à Bertha.
Bonjour, je m'appelle Bertha. Je raconte le blog. L'oncle de Toto s'approche d'un pêcheur assis au bord de l'eau et s'entend. Mais vous pêchez avec un morceau de charbon? Oui, c'est pour attraper des poissons fumés.
Merci Bertha. Est-ce que quelqu'un aimerait raconter une autre blague? Shawal?
Bonjour, je m'appelle Shawal. Ma blague, je l'ai inventée. C'est un jour, un souris regarde un chat qui s'est fait manger par un lion. Et le chat dit, poisson chat. Chavril, le chat dit, sourito.
Moi, j'aimerais bien en faire une. Bonjour, je m'appelle Camille et je vais vous raconter une blague que j'ai lue dans un livre. Quel est le bonbon préféré des chevaux?
Le foin?
La fraise. Tagada, 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 tagada. Est-ce que quelqu'un aimerait nous dire quelque chose dans une autre langue que le français?
Ah, ma, ça veut dire oui, maman.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 7, 8, 9, 10, 20, Chico, c'est des nombres de langue russienne de la Tchétchénie.
Est-ce que vous pouvez dire chacun ce que vous pensez de l'école?
Je pense que l'école, c'est bien parce qu'on fait les arts visuels et j'aime un peu les maths et la lecture un peu.
Ce que je pense de l'école, c'est bien. Parce qu'on fait plein de trucs. On fait des sorties.
La radio, c'était bien. Est-ce que ça vous a fait plaisir?
La musique, elle est beau. TV, c'est beau la musique.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était les enfants du classe. Merci à elle et à eux pour nous avoir offert ce moment de légèreté dans notre émission d'actualité, toujours en direct sur les ondes de Radio Larzac. Et merci à Camille aussi qui les accompagne. Et on continue de parler de l'association Myriade aujourd'hui, elle est mise à l'honneur dans l'émission parce que Souria, notre volontaire en service civique, s'est rendue à l'atelier Cuisine du Monde qui a lieu tous les premiers mercredis du mois et elle nous le raconte dans un reportage qu'on écoute tout de suite.
Association Myriade Amio, mercredi 1er février 2023. Myriade est une association qui a vu le jour en 1987 sur les territoires miavois. Elle propose de nombreuses activités dans le but de créer du lien entre les personnes de différentes cultures. Radio Larzac est allée participer à l'atelier Cuisine du Monde, accompagnée de notre fidèle compagnon, le micro.
La
Claire, salariée de Myriad, s'occupe des animations adultes et agence les ateliers cuisine. Elle nous explique le fonctionnement de la passerelle, le lieu où se déroulent les ateliers cuisine.
À la passerelle, c'est vraiment un accueil de jour. Donc ça, les personnes elles peuvent venir pour prendre des cours de français, informatique, code de la route, et puis se faire aussi accompagner sur des démarches administratives. Et après, il y a toute la partie cuisine, qui est une partie hyper importante à Myriad. C'est vraiment un lieu, c'est un lieu de passage, hein, et c'est un lieu où les personnes elles peuvent venir aider, donner un coup de main. Elles peuvent venir pour animer quelque chose. C'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'elles peuvent proposer, elles peuvent être voilà, vraiment force de proposition. Et donc, en cuisine, on a plusieurs ateliers. C'est vraiment aussi un lieu d'insertion. Il y a notamment une de nos collègues qui est en contrat d'insertion en cuisine, elle est cuisinière. Et donc, l'idée, c'est vraiment de l'accompagner et que c'est vu comme un tremplin, ce poste. À Myriad, c'est un lieu qui était assez privilégié par les femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont à Myriad. Et en fait, c'est vraiment vu comme un lieu un peu sécur, quoi. Et la cuisine, notamment. C'est un lieu où elles peuvent, souvent, elles enlèvent le voile. C'est un lieu où elles peuvent vraiment échanger sur leur quotidien, sur leur vie d'avant, dans leur ancien pays, etc. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est très riche d'échanges. Et on s'est vraiment rendu compte que la cuisine, ouais, c'est vraiment un lieu de transmission, en fait. L'espace, la cuisine. Et après, c'est aussi un des objectifs principaux, c'est la lutte aussi contre les discriminations. Et ben la cuisine aussi, c'est un bon moyen de faire ça, parce que du coup on fait découvrir la cuisine d'ailleurs dans Mio, c'est-à-dire qu'on va à la Maison du Peuple pour présenter des cuisines d'ailleurs, on va sur des spectacles, on va au cinéma, donc voilà. Et puis les personnes, elles viennent présenter aussi leur repas, leur plat, et donc ça permet aussi de créer des rencontres entre les Miavois et puis les personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, quoi. Donc la cuisine, c'est vraiment un bon moyen d'échange entre l'ailleurs et Mio, quoi. Et justement, l'idée des ateliers, c'est pas de rester entre nous, c'est vraiment d'ouvrir ça et à tout le monde. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de promouvoir ces ateliers-là, pas seulement aux adhérents qu'on connaît, et de vraiment, on essaie qu'il y ait des personnes nouvelles à chaque fois, quoi. La passerelle, c'est de sortir de... vraiment de sortir de l'isolement, de pouvoir rencontrer du monde. Et puis après, il y a les bureaux où là, on fait c'est plus sur les démarches administratives et vraiment lié au droit au séjour aussi, un accompagnement sur les papiers. Et puis, enfin, en tout cas, cette année, c'est beaucoup d'enfants allophones. Donc, ils viennent d'arriver en France et pour qui c'est un peu difficile de rentrer dans un collectif, hein, où en tout cas ils se sentent pas encore suffisamment forts, et puis la barrière de la langue. Donc nous à Myriad, on fait des petites activités en tout petit collectif, et voilà, on travaille sur des techniques FLE.
Aujourd'hui, c'est Tawana qui anime l'atelier en proposant des recettes de son pays, le Brésil.
C'est un plat brésilien très connu. Normalement, on mange avec du thé, avec du café. Je propose ça parce que c'est facile, c'est trop facile, comme c'est la première fois que j'ai fait cette course. Et c'est un plat facile, et c'est rapide. Avec des fromages, je sais que les Français adorent le fromage. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce plat. C'est fait avec plaisir, c'est un grand plaisir de partager ça, un plat brésilien avec les Français, avec tout le monde qui est ici, en Myriad. Oui, il s'appelle pão fromage, okay? En portugais, pão de queijo. Et ça, c'est gâteau carotte. Carotte avec du chocolat.
Okay.
Oui, j'adore. C'est bien pour pratiquer le français, parce que mon français c'est un peu difficile pour comprendre, je sais. Mais c'est bien pour pratiquer, pour parler, ça on découvre des choses différentes. Et c'est, pour moi c'est magnifique ça. Okay. C'est un grand plaisir.
Deux bénévoles nous partagent ce qu'elles aiment dans ces ateliers.
Convivialité, ouais, oui. La convivialité, puis bon, là, le partage de
culture.
Voilà.
Différence.
Oui.
C'était combien de temps que
vous participez
déjà?
Oh, ça fait il y a bien 6 ou 7 ans. Hein.
Oui, moi beaucoup, oui. 2 ans, seulement.
Marie, bénévole à Myriad.
Je donne des cours de cuisine avec une autre, avec Marie-Jo. Cuisine à petit budget, une fois par mois. Et là, je participe pour apprendre la cuisine du monde.
Et donc, j'ai ce produit, je parle à chaque fois, c'est ça?
Oui, là, c'est Tawana, qui est brésilienne, qui nous apprend la cuisine du Brésil. À chaque fois, ça change.
tout le monde peut venir bénévole. Déjà, l'accueil, il est inconditionnel. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des personnes qui vont venir à Myriad pour se faire accompagner sur des papiers ou, sur, ou venir pour des, la cuisine. Ou, enfin, par n'importe quel biais, on peut venir se faire accompagner ou venir passer du temps à Myriad. Et puis, en fait, on peut se retrouver bénévole à un moment à donner un coup de main. Donc, c'est vraiment un échange. C'est, on ne fait pas trop de distinction entre les personnes qui sont apprenantes et les bénévoles parce qu'en fait, ça peut se mélanger. Et après, donc, tout le monde peut venir pour quelque chose en particulier. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent venir seulement pour donner des cours de français. Donc là, ils viennent se présenter, on les accueille et puis on essaie de leur faire un peu connaître Myriad d'abord parce que c'est très vaste et des fois, c'est un peu dur de comprendre aussi ce qu'on y fait. Et donc, on essaie d'abord de les faire un peu rentrer dans l'association, de leur présenter toutes les actions. Et puis après, ils se positionnent aussi sur ce dont ils ont envie. Ce qui est chouette, c'est que vraiment, souvent, les personnes, elles ne sont pas cantonnées à une activité. Au fur et à mesure du temps, elles vont sur d'autres activités qu'on propose.
Comme vous l'avez entendu, les portes de l'association Myriad et de la Passerelle sont toujours ouvertes pour accueillir les curieux et curieuses, et pas que. Si vous êtes intéressé par les ateliers de cuisine de Myriad, rendez-vous sur la page Facebook Association Myriad Mio.
Et c'est déjà la fin de cette émission, l'actu sur un plateau sur Radio Larzac. Vous avez entendu juste avant la musique, le reportage de Souria. Merci à elle pour son travail sur la cuisine du monde à Myriad. Le prochain atelier à l'association aura lieu le mercredi 1er mars. Et en tout cas, c'est tous les premiers mercredis du mois. Merci aussi à nos invités Céline Guelton, Thomas et Jeanne Rouche. Merci à Alex pour avoir participé et merci évidemment à Nico à la technique. L'actu sur un plateau revient le mois prochain et cette émission est rediffusée ce vendredi à 19h. Très belle continuation à vous sur les ondes de Radio Larzac.